Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Ce matin, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Jérôme Pineau. Deux matchs de suite sans victoire et les Marseillais se font déjà siffler par leurs supporters. Sont-ils beaucoup trop durs?
Non.
C'est le bras de fer des GG.
On t'a pas demandé encore, Marion.
Oui, mais j'adore.
Je vous réponds.
Alors attends, tu vas répondre à cette question.
Parce que j'ai sifflé aussi. Donc.
On avait déjà Alcaraz et Sinner. On a maintenant Arthur Fils comparé par Mats Wilander à Yannick Noah. Est-ce une sortie prématurée? C'est la punchline à 10h30.
Moi là, j'ai hâte. J'ai hâte de l'entendre.
Ok, Marion, oui ou non, sortie prématurée?
Tu auras mon opinion tout à l'heure.
Ok, alors on dit rien là. Et puis 10h45, les GG contre-attaque, vous le savez. C'est vous qui prenez les commandes de cette émission Les Grandes Gueules en proposant un débat. Soumis au vote, vous avez 20 secondes pour nous proposer votre débat. Je passe dans les rangs rapidement, vous me dites votre débat. Tiens, bah Jérôme, je commence avec toi. C'est quoi ton débat?
Eh bien, moi j'ai envie de vous revenir sur le drame Muriel Führer, la disparition de cette jeune cycliste suisse. La semaine passée au championnat du monde à Zurich, il a été remis en question énormément de choses. On sait que les secours sont arrivés très tard et on sait aussi que sur ces courses-là, les oreillettes ne sont pas autorisées. Et je pense qu'il faut revenir sur le débat de doit-on autoriser les oreillettes dans toutes les courses? Parce que le week-end dernier, les oreillettes auraient sauvé Muriel.
Voilà, un débat très important, un sujet évidemment très très sérieux, et tu voulais le mettre sur la table dans les grandes gueules du sport ce matin. Marion Bartolito aussi, un sujet sérieux.
C'est pas très gai. Moi, je vais vous parler du décès de Mehdi Narjissi avec cette affaire absolument incroyable, les responsables de ce drame qui se cachent, qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Je trouve ça absolument honteux, et pour moi, est-ce que ça serait pas la plus grande affaire et le plus grand drame de l'histoire du rugby?
Ok. Donc deux sujets sérieux, est-ce qu'on va être un peu plus léger ou pas, Fred Weiss?
Un peu plus léger parce que ça semble se terminer correctement, mais c'est au départ pas forcément ultra léger. J'avais envie de parler de Wembanyama avant Wembanyama. C'est-à-dire Jonathan Jeanne, un joueur de 2m18 qui aurait pu être cette licorne qu'est Victor Wembanyama avant l'heure, sauf qu'un problème au cœur détecté à cette période-là l'a empêché d'arriver et d'accomplir son rêve, l'a empêché d'avancer dans le basket, a été obligé de s'arrêter, et là il est en train de revenir en odeur de grâce en Pro B. Donc j'avais envie de parler de ce chemin de vie incroyable.
En Pro B d'ailleurs, je crois que c'était une erreur médicale.
Une erreur médicale, oui.
Exactement. Ce qui est fou, hein, une trajectoire hallucinante.
Et ce garçon est toujours motivé et j'avais envie de le mettre en avant.
Ok, Christophe Cessieux.
J'en ai ras-le-bol de Mbappé, moi. J'en ai ras-le-bol, mais alors vraiment ras-le-bol. Alors tu le sais, je te le répète, semaine après semaine, on a déjà fait 6 débats en 5 semaines sur Mbappé.
Est-ce que Barcola a pris la place de Mbappé? Je les ai tous listés.
Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi, si on en fait trop, et comment expliquer qu'on en fasse autant. Et j'aimerais aussi proposer finalement que nos auditeurs nous aident aussi à faire le conducteur et voir à quoi ressemblerait un conducteur fait par les auditeurs d'RMC dans les grandes gueules du sport. Donc voilà les propositions que je vais vous faire tout à l'heure, évidemment si vous votez pour moi.
Parfait, 4 très bons débats proposés ce matin, à vous de jouer, vous avez plus d'une demi-heure pour voter pour votre débat préféré. C'est un titre sorti en 2004 au lancement des grandes gueules du sport. Ça fait 20 ans que les GG,
à chaque fois
je dis les grandes gueules du sport. Oui,
c'est
bien sûr. Ça fait 20 ans que les GG ont vécu une naissance absolument incroyable. 20 ans des GG. Et à cette occasion, vous pouvez gagner jusqu'à 5000 euros cette semaine. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Il est 10h12 pour les 20 ans des grandes gueules que vous retrouvez évidemment demain à partir de 9h. Tristan Bernard a dit un jour, applaudir est vraiment une grande jouissance qui n'a d'égal que celle de huer.
RMC, le bras de fer GG.
Monsieur Milo qui libère une nouvelle fois le Vélodrome. Scène de joie entre Roberto De Zerbi et tout son staff. 2-0 pour l'OM face à l'OGC. Ça fait 3-2 pour l'Olympique de Marseille à la 95e minute. C'est fini. L'Olympique de Marseille à 10 contre 11 qui arrache les 3 points de la victoire.
C'est le meilleur. Meilleur M-E-Y-E-U-R quand même.
Et c'est terminé. Depuis avril 2005, il n'avait plus battu l'Olympique de Marseille. Première défaite de la saison pour les Marseillais. Ils sont tombés de haut, de très haut.
C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. t'es mauvais.
Coup de sifflet final de monsieur Lissor. Écoutez les sifflets du Vélodrome après cette nouvelle contre-performance de l'OM. Un but partout au final et contre-performance de l'OM.
T'es nul.
Il y a des choses qui ne changeront jamais. Il y a deux semaines, l'OM retourne la table à Lyon et tous les supporters se prennent à rêver du titre. Deux semaines plus tard, et pour la première fois de la saison, les Marseillais se sont fait siffler à l'issue du match nul face à Angers vendredi soir. Une bronca, vous l'avez entendu, au coup de sifflet final, symbole de la frustration des supporters. L'OM se fait siffler, les joueurs se font siffler. Les supporters sont-ils trop durs? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Fred Weiss. Et c'est tout. Dans le coin droit, la team non, représentée par Christophe Cessieux, Marion Bartoli et Jérôme Pinault. Avant de débattre, de connaître une tendance avec cette consultation sur X, les auditeurs, vous avez pu voter pour ce débat, nous dire oui ou non pour vous, est-ce que les supporters sont trop durs. Avant de débattre donc, écoutez Roberto De Zerbi qui a dû réagir après la rencontre à ces sifflets des supporters.
Que dire aux supporters? Je suis désolé, nous sommes tous désolés. Nous voulions arriver à la trêve en tête du classement, donc avec la victoire à Strasbourg et la victoire aujourd'hui, nous donnons tout. Je ne demande pas de temps, je ne demande rien, je l'ai déjà dit. J'ai aussi dit que Marseille est comme toutes les ambiances chaudes. Ils t'attendent à l'aéroport à 3000 personnes après Lyon, puis ils te sifflent aujourd'hui et tu dois l'accepter. En tant qu'entraîneur, joueur ou dirigeant, tu dois l'accepter et tu dois te sentir chanceux d'être dans ce club et de jouer dans ce stade.
Di essere in questa società e giocare in questo stadio.
Ok, Roberto De Zerbi comprend et forcément il est dans sa position, difficile de dire autre chose. Les supporters sont-ils trop durs? On vous attend le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Fred, tu es derrière car ils sont 41% à penser comme toi. Oui, les supporters sont trop durs, 59%. Non, tu es derrière, tu commences.
Le football à Marseille, ce n'est pas du sport. C'est une religion, c'est une exubérance, c'est un amour fou, c'est la folie quand on va voir un match, quand on supporte, quand t'es un supporter marseillais, tu n'es pas un supporter de football. Tu vis pour la ville, tu vis pour ton équipe, etc. Et donc, comme dans toutes les relations amoureuses, comme dans toutes ces passions-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es exubérant et tu vas trop loin, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que, en gros, en amour, au bout de 5 journées, les Marseillais pensaient déjà qu'ils seraient champions, que ça serait
peut-être
merveilleux.
Champion, oui, mais
ils rêvaient du titre. Ils étaient, c'était la folie. C'était une équipe parfaite, De Zerbi, quel joueur magnifique. Les joueurs sont,
entraîneur
magnifique. Les joueurs sont fantastiques, incroyables. Et maintenant, tu perds deux matchs. On est à la 7e journée. C'est les pires du monde.
Mais c'est Marseille, bébé. C'est Marseille.
Mais c'est ce qu'on aime à Marseille.
Une défaite, un match
nul.
C'est
pour ça que tu veux.
Pas de défaite.
Ok, Marion, si tu me laisses terminer, ce sera beaucoup plus simple. Parce que, effectivement, il y a d'abord une défaite et un match nul à la maison. Effectivement, contre Angers. Alors, effectivement, c'est trop. C'est ça qu'on aime à Marseille. C'est pour ça qu'on signe là. Et on sait dès qu'on arrive. Effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'ils
le disent. Mais c'est pas trop, mais t'as vu la presta qu'ils ont fait. Trop.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais bien sûr que c'est ça.
Tu viens de faire 5 matchs quasiment parfaits. Alors, peut-être pas, mais en tous les cas, de très bons matchs. Tu fais une première défaite, ok. À la maison, tu prends
un contre Angers. Mais c'est pas ça, c'est le contenu. Mais c'est le contenu.
Pour siffler.
Mais c'est le contenu,
c'est trop rapide.
Le contenu est catastrophique.
Tu dois encourager les supporters.
Mais non, tu veux pas encourager.
Moi,
c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait.
D'autres pays.
Non,
Espagne,
pas du tout. Pas du tout.
En Grèce. Et quand tu vas là-bas, que tu gagnes ou que tu perds, ils sont neutres, les supporters.
Mais
ils
encouragent. Tu te faisais siffler au bout de
Limoges. À Limoges, tu sais ce qu'on appelle Limoges, comment on appelle Limoges, pardon?
Non.
L'OM du basket. C'est-à-dire que tu sais, encore une fois, tu sais quand tu vas là-bas, c'est difficile, il faut le supporter et tout le monde n'est pas capable de faire. Et tout le monde dit aussi que quand t'es prêt à jouer à Limoges, quand t'es prêt à jouer à l'OM, tu peux jouer n'importe où parce que cette pression est énorme. Mais c'est pas pour autant que c'est pas trop. C'est trop.
Non,
mais,
je suis pas du tout là.
Mais
tu la comprends, mais c'est trop.
Je comprends, évidemment. Okay. Et j'adore les supporters de Marseille. Et j'en fais partie. Mais à un moment, il faut dire la réalité.
J'ai l'impression que Marion veut répondre. Oui, Marion.
Je suis pas du tout d'accord parce que sur le contenu de ce qu'ils ont produit, en particulier contre Angers, c'est totalement inadmissible.
Donc, un match
c'est
suffit pour siffler, Marion.
Mais tu peux pas accepter avec le début de saison. Mais parce que c'est trop mauvais.
Mais c'est trop mauvais.
Mais regarde le contenu. Je vais te sortir une stat. Non, mais pas Marseille. Il n'y a pas de mesure à Marseille.
C'est ce que je te dis.
Je vais te sortir une stat, je pense pas que tu la connais. C'est la première fois en Ligue 1 en 3 saisons qu'Angers n'a pas pris un but sur une première mi-temps. Et contre qui ça tombe? Et bien, bien évidemment, sur Marseille.
Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça reste alors, un match. Attends, bah, on est la 7e journée.
Mais
c'est un match.
Mais c'est un match hyper important. C'est juste avant de recevoir. C'est juste avant de recevoir le PSG. C'est les matchs les plus importants d'une année de Marseille. On sait très bien. C'est les classiques. Donc, tu te reçois bientôt le PSG. Tu les reçois à la maison. Tu dois d'enquiller, de continuer à enquiller les points. De Zerbi l'a dit. Il pensait être premier. Pourquoi? Tu fais le plus dur. Tu vas gagner à Lyon alors que t'es à 10 contre 11.
T'as deux matchs. Justement, tu perds contre le PSG.
Contre des équipes de battre. Classement
quoi,
contre Angers qui prend carton rouge, contre Angers qui prend carton rouge en premier, contre Angers qui prend carton rouge en premier,
tu es en supériorité.
Et bien justement, c'est une faute professionnelle, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, oh, mais c'est pas grave, les gars, allez, c'est bien, mais c'est rien, mais il n'y a pas de souci. Mais arrête bêtise, Mopé depuis le début de la saison, il a marqué qu'un but, c'est lui qui prend les deux jaunes. Non, je suis désolé, c'est non, je suis désolé. Tu vas dire quoi? Tu vas les applaudir? C'est pas grave! C'est pas grave, tu perds contre dernier du classement, mais c'est pas grave, c'est rien, tu perds 3 points, tu perds 2 points. Mais
évidemment pas au début de saison, comme ça, c'est pas grave, ça arrive.
Tu fais 1 sur 6 les deux derniers matchs.
Moi aussi, c'est pas grave, c'est bon. Je fais des grands signes depuis tout à l'heure, vous savez que je suis là dans l'émission.
Ah bon?
Mais vous me dites, si vous voulez que je parte, vous faites l'émission tout seul. Mais je suis là.
T'as pas le journal, là?
On a compris.
Sinon, tu peux nous laisser finir, après on verra si on peut te laisser parler.
Pardon, mais au bout de 4 minutes, je me dis qu'on peut peut-être accueillir Christophe Cessieux qui est là dans cette émission.
Non, j'ai pas envie de me faire engueuler, moi, c'est bon, là. J'ai rien demandé, là.
Je te disais bonjour.
Elle est survoltée, là. C'est parce qu'elle a bouffé ce matin avant de venir.
Mais comme t'es d'accord avec
elle va m'arracher les yeux.
Jérôme Pinot est dans cette émission. Bonjour, Jérôme.
Ah, bonjour.
Alors, Jérôme, vas-y.
Non, mais moi, je réponds non à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Évidemment, ils vont voir un spectacle. Moi, ce que je demande à un supporter, c'est, et surtout les Marseillais sont entiers, comme tu dis, c'est une passion, c'est une religion, cette ville. Je fais partie des supporters de ce club et je suis déçu à la fin du match quand je vois une prestation pareille. Donc, ils ont le droit de s'exprimer là-dessus. Après, pendant le match, il y a eu un soutien tout le long du match.
Exactement.
C'est ce qu'on leur demande. Ils chantent, ça crie, ça... jusqu'à la dernière minute. Et à la
jusqu'au
fin du match,
final.
Eh ben, on n'est pas contents et on leur dit, les mecs, faites mieux la prochaine fois parce que nous, ça ne nous plaît pas ce qu'on a vu. Ils payent un spectacle. Moi, je vais voir n'importe quel spectacle. Les trois potes qui sont allés, les trois data avant moi, me dit c'était génial. Quand moi j'arrive, le mec il a plus de voix ou il saute plus aussi haut, je vais dire c'est j'ai pas aimé, voilà. Et donc ils payent, ils vivent, ils s'endettent, ils ne vivent que par ça, c'est leur plaisir.
Mais ça, on est complètement d'accord. Mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. J'ai dit qu'ils étaient durs. C'est juste un constat. Dire après cette journée que
ils sont
que
durs,
tu commences
Fred.
À siffler,
mais non, ils ont la vie de Marseille. Chaque week-end,
tu sais que chaque week-end ça va se répéter. Tu n'as pas le droit.
Je pense que cette année c'est assez particulier en plus parce que les premières journées. Marseille était au taquet, Marseille rivalisait avec le Paris Saint-Germain, tout le monde était en train de dire dans les médias et dont nous que Marseille allait pouvoir s'accrocher au Paris Saint-Germain et vraiment aller jouer le titre de champion de France. Je pense qu'il y a eu aussi cette enflammade sur les plateaux, elle a également eu lieu à Marseille et tout le monde s'est pris à rêver que Marseille effectivement quand au bout de tout va bien et que d'un seul coup tu perds un premier match et que la fois d'après tu es incapable de battre la lanterne rouge qui n'a rien montré sur les terrains depuis le début de la saison, les mecs sont tombés de haut, sont tombés de 2-3 étages et donc c'est du dépit
la
amoureux de les
cibler, la frustration c'est du dépit amoureux parce que c'est pas parce que c'est du dépit amoureux,
mais ils sont pas le feu à la commanderie, ils ont pas demandé l'agrément d'entraîneur,
honnêtement
ils en sont pas là, ils sont juste mécontents du spectacle,
c'est hyper humiliant.
Alors ils l'ont fait qu'à la fin du match, ils ont mangé pendant tout le match,
peu importe, ils sifflaient quand même à la fin.
Mais oui, parce qu'ils ont fait une prestation qui était horrible.
En quoi ça t'aide à être meilleur au prochain match?
Tu vas bouger le cul parce que tu vas pas accepter pour aller laisser faire une prestation pareille.
Surveille le langage, bouger les fesses si tu veux. L'Olympique de Marseille, le pompotin.
Mettre un peu plus d'intensité.
Je vous propose d'écouter Geoffrey Kondogbia. C'était après la rencontre et on lui parle évidemment de ses sifflets. J'aimerais vous entendre et que vous puissiez réagir sur ses propos.
On peut dire presque qu'ils ont tous les droits parce que avec ce qu'ils démontrent pour nous au quotidien, ce que la ville démontre pour nous au quotidien, en étant joueur de l'Olympique de Marseille, ça doit être normal d'être dans cette situation-là. Ça doit pas être quelque chose de surprenant quand on met le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est pas une chose qui est extraordinaire, c'est une chose assez normale.
Une chose assez normale pour Geoffrey Kondogbia, mais et c'est ce que vous rétorquez, Fred. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas contre-productif quand on voit, par exemple, que Wahi, au bout de son premier match, même s'il a raté beaucoup d'occasions, mais il a besoin à un moment donné aussi de se sentir en confiance et que les supporters lui tombent à bras raccourcis dessus. Est-ce que c'est pas contre-productif, même si on comprend l'emballement?
Là, il y a un vrai sujet aussi. C'est que ces mecs, les joueurs qui vont jouer dans ces clubs-là, type Olympique de Marseille, Napoli, les clubs où c'est le feu,
c'est
où,
chaud.
Où c'est, tu dois, t'as des, ils ont des
conseillers. C'est aux joueurs de s'habituer.
Ils ont des conseillers. Mais faut pas y aller si t'es pas capable.
Mais tu sais pas que tu t'es pas capable avant de l'avoir fait. J'ai plein de joueurs, tu vois. Encore une fois, je repars.
Toi-même, non, il y a plein de joueurs qui sont arrivés. Est-ce que t'as entendu le début de ma phrase?
Oui.
Ils sont entourés de conseillers.
Mais les conseillers.
Le conseiller doit être capable de dire, écoute, là-bas, tu vas te faire broyer.
Mais non, mais Jérôme, tu peux pas savoir comment tu vas réagir et quelqu'un d'autre, pourquoi non plus. C'est pas possible.
Le conseiller, il est là pour gagner de l'oseille avec son joueur. Là, si Wai, ça continue, il va en perdre de l'oseille. S'il est pas capable de s'adapter dans un grand club, alors ça veut dire que la cote de son joueur, et là je te parle du côté financier, va descendre. Un mec qui vient à l'OM doit être prêt à se faire siffler dès qu'il ouvre l'occasion.
Si même s'il a fait un truc le week-end avant. Jérôme, même tu ne peux pas deviner si ton joueur est capable et a cette force de caractère pour supporter ça.
Si tu es son conseiller, tu dois quand même un peu connaître le joueur.
Tu connais le joueur, mais vu que tu
t'envoies Benassia, au moins tu auras une bonne sortie.
Non, mais une situation que tu ne connais pas, tu ne peux pas la juger. C'est pas possible. Donc si tu ne connais pas cette situation,
tu la connais à Marseille avec des abus. Il a des abus depuis des années.
Oui, mais tu ne l'as pas vécu. Tu ne sais pas
que Wai arrive de Lens. Première critique qu'il a subi à Lens, là on est rendu sur Wai. Mais Wai à Lens était critiqué et comme par hasard, quand il était critiqué, il passe au travers. Donc quand tu l'envoies de Lens à l'OM, tu sais qu'il va y avoir un problème
aussi.
Je te redonne la parole, Marion. Juste, Pierre nous appelle au 32-16. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour messieurs.
Supporter de l'OM.
Bonjour,
on a envie d'entendre.
Plus que jamais, oui, avec tout le tabac de Vitrolles. Parce qu'on est tous là à vous écouter, là.
Ah. Alors,
moi, un collègue de Fred.
Ouais, moi, ce que je veux vous dire, c'est que eux, ils ont qu'à se bouger le cul.
Ah, merci. Voilà, je l'ai dit pareil.
Ils marchent. Ils jouent, ils courent pas, ils marchent.
Voilà, merci.
Merci. Contre Angers, là. Faut pas déconner non plus, faut pas nous prendre pour des cons. Moi, ils ont qu'à venir me payer l'abonnement que j'ai pris. Hein? Si c'est pas le stade, c'est l'abonnement à la télé et tout. Et eux, ils se promènent, parce qu'ils se promènent dans le terrain, là. Ils jouent pas, ils se promènent. Hein.
Est-ce qu'on peut parfois Pierre, est-ce que parfois on peut pardonner une promenade? C'est-à-dire que si ça arrivait tous les week-ends, je comprends, quand c'est une fois de temps en temps.
Bon, moi, alors, si je dois pardonner quelque chose, c'est contre Strasbourg. Et les mecs, ils sont jeunes, ils sont rapides et tout. On s'est fait un peu dépasser par les événements.
Ok, Strasbourg, mais pas Angers.
Mais bon Dieu, quand c'est qu'il y aura un entraîneur qui va jouer, va faire jouer les joueurs à leur place. Ils ont fait des formations pour jouer à leur place. Et l'autre qui me met Kondogbia, il me le met derrière. L'autre, il me le met devant. L'autre, il met Rosberg, je ne sais pas où il a mis. Il a qu'à le mettre gardien de but aussi.
Vous n'allez quand même pas brûler maintenant Roberto de Zerbi.
Mais voilà,
vous
c'est ça. Mais dans la passion, tu vois, c'est débordement, c'est normal.
Attendez, il faut qu'ils arrêtent les conneries là maintenant. Il faut qu'ils arrêtent. Et c'est tous. Il n'y a pas que Marseille. Et nous, encore plus que les autres.
Voilà.
Allez, on est là, on fait
beaucoup. T'as bien raison, Pierre.
Au premier match. Et puis hop, il n'y a plus rien, quoi. Ils ont appelé les pompiers et ils ont éteint le feu.
Merci Pierre d'avoir été avec nous.
Voilà, voilà. Il l'a dit comme moi. Voilà. Mais bien sûr.
Merci Pierre d'avoir été avec nous.
Maintenant, tu peux aller au tabac de Vitrolles.
Rapidement.
Ces réactions sont totalement logiques quand on est supporter de l'OM et je les ai exactement de la même façon. Et il ne faut pas me faire croire que les joueurs ne savent pas que les supporters vont être comme ça quand ils arrivent à l'OM, s'il vous plaît.
Sinon, tu vas quand au bar, toi? À quelle heure?
À Vitrolles.
À Vitrolles.
T'es attendu.
T'es invité sans aucun problème.
Tu vas pouvoir leur vendre ton livre. Regardez comment mes
clients regardent. Faut y aller vite là.
Arrêtez d'y coller.
Pas sûr que tu croises notre auditeur.
Mes amis marseillais, ils embrassent très fort.
Bon, sachez en tout cas que Fred Weiss a gagné un petit pourcentage sur.
Mais il a toujours perdu.
Sur ce sondage, les supporters sont-ils trop durs? On termine à 58%. Non, 42%. Oui, bravo mon Fred, même si évidemment merci, Christophe, merci. Marion et Jérôme restent avoir devant.
Le nom du club que supportent les gens qui ont voté?
On pourrait.
Ça s'appelle
possible que ce soit du côté de Marseille, c'est ça que tu veux nous dire. L'Apple Flame des GG dans quelques instants. Et si on avait enfin trouvé le nouveau Yannick Noah?
On l'a, a priori.
Eh oui, parce que c'est Mats Wilander qui le dit.
On a le nouveau Bernard Hinault, le nouveau.
Ah, mais il est pas français.
Alors, on est d'accord que les victoires en grand chelem chez les filles, ça compte aussi, non?
Le nouveau Bernard Hinault aussi.
Ah, ok,
on a un nouveau. En Formule 1, je sais pas si on a un nouveau Alain Prost, mais bon, ça un nombre de champions.
Léo Roinsard, il arrive, mais il faut lui laisser un peu de temps.
Ah, d'accord.
Le nouveau Yannick Noah, S. Arthur Fils, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les GG. Les GG contre-attaque, vous avez proposé 4 débats. Vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. 4 très bons débats. Je vous donne l'identité du vainqueur dans quelques minutes. Deux Français en finale, et revoilà la France du tennis qui s'emballe cette semaine. Arthur Fils a battu Hugo Humbert en finale de l'ATP de Tokyo, ATP 500, son troisième titre en carrière à seulement 20 ans. Après une semaine, il faut bien le dire, époustouflante, sortant quatre joueurs du top 20, Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Ben Shelton et Holger Rune. Du coup, la légende du tennis suédois, Mats Wilander, consultant sur Eurosport, s'est pris à rêver du nouveau Yannick Noah. C'est le fameux serpent de mer hein, en France. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
I'm gonna start dreaming because when you have Alcaraz, Sinner, now you have Arthur.
Je vais commencer à rêver. On avait déjà Alcaraz et Sinner, et maintenant on a Arthur Fils. Nous avons besoin d'un Français qui puisse espérer s'imposer à Roland Garros de nouveau. D'ici 2028 ou 2029, Arthur Fils sera dans le top 5 et sera un prétendant au titre en Grand Chelem. Arthur Fils peut combler le vide qu'il y a eu à Roland Garros depuis que Yannick Noah l'a gagné en 1983.
That has been there since Yannick Noah won in 1983.
Ok, Mats Wilander, est-ce une déclaration prématurée de comparer Arthur Fils à Yannick Noah? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui, ça allait un peu vite en besogne.
Ok, Fred Weiss.
Oui.
Marion Bartoli.
Non mais.
Non mais, tu me fais du Denis?
Oui.
Denis Charvet, non mais. Ok, Jérôme Pinault.
Oui.
Oui, ok. J'ai trois oui. Alors j'ai quand même envie de connaître la sensation du non mais. Pourquoi Marion?
Alors, j'adore Mats, mais déjà quand il dit qu'il y a eu un vide depuis à Roland-Garros depuis 1983, on va quand même pas oublier la victoire de Marie Pierce, parce que s'il vous plaît, moi j'en ai ras-le-bol qu'à chaque fois le tennis se résume qu'au tennis masculin et qu'il y a eu une victoire française à Roland-Garros et c'était celle de Marie, que Joe Wilfried Tsonga a fait énormément de parcours extrêmement emballant, qui a amené énormément de choses à ce tournoi, comme Gaël Monfils, comme Richard Gasquet, comme d'autres joueurs, comme Amélie Mauresmo également, et qu'on va pas réduire Roland Garros à simplement la victoire de Yannick, même si bien évidemment Yannick a été capable d'amener le tennis français masculin sur la plus haute marge du podium à un moment donné. Ensuite, pour connaître très bien Arthur, puisque je le suis depuis beaucoup d'années, notamment ces années juniors, c'est effectivement un joueur qui, pour moi, aura la capacité d'aller gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais attention, parce qu'il y en a eu énormément de joueurs qui avaient éventuellement la capacité d'aller gagner un tournoi du Grand Chelem et qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, qui soient alignés pour arriver à le réussir. Donc, quand je pense justement à Joe Wilfried Tsonga, qui a fait pour moi une carrière exceptionnelle et qui, malheureusement, n'aura pas de titre du Grand Chelem, n'a pas eu de titre du Grand Chelem, qui a joué une finale en 2008 et puis plus aucune, on se dit que même si on arrive tôt, c'est pas pour ça qu'on va forcément y arriver. Donc, c'est pour ça que j'émets quelques réserves, parce qu'effectivement, moi, j'y crois au potentiel d'Arthur. Pour l'instant, et c'est là où je rejoins Mats, il a besoin de plus de temps pour se développer physiquement. Lorsqu'on voit ses performances, il est très bon sur des tournois d'une semaine au meilleur des 3 sets. Sur les meilleurs des 5 sets avec des matchs beaucoup plus longs, il a besoin d'avoir une endurance physique. Voilà. Et non tellement sur ta battue, d'une endurance physique qui soit supérieure. Et ça va se construire avec le temps. Donc il faut lui laisser du temps. Qu'il ait le potentiel, qu'il en ait la capacité, qu'il en ait l'envie, qu'il ait fait les bons choix en payant ses entraîneurs, en sortant de structure fédérale, en investissant dans sa carrière. Je suis totalement alignée à 100% avec Mats là-dessus. En revanche, j'ai mes quelques réserves, en tout cas. Je mets en exergue les difficultés de gagner un tournoi du Grand Chelem parce que j'ai vécu ce parcours. J'ai pu voir chez d'autres garçons qui avaient énormément de talent les difficultés que ça représente. Et dans le tennis masculin, les noms qui ont été cités comme Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, ce sont des joueurs qui vont durer et qui vont mettre la barre extrêmement haut et qui eux aussi vont beaucoup progresser dans les 4-5 prochaines années.
Avant de parler de Yannick Noah, dans sa première intervention, Mats Wilander, il dit on avait Sinner, on avait Alcaraz, on a Arthur Fils.
On aura toujours.
Oui, non,
ils sont
enfin,
là, ils ont
on a eu l'émergence de stars et Arthur Fils.
Non, mais je rappelle quand même qu'Alcaraz et Sinner sont partagés les 4 grands chelems cette année, que Alcaraz a déjà 4 tournois du grand chelem et que Sinner a déjà 2, et que dans 4 ou 5 ans, ils n'auront pas régressé.
Non, mais c'est pour ça que moi je dis non, ce genre de choses, de déclaration est un peu lunaire dans le sens où on sait que les choses sont. Il y a des choses qui sont très établies et on sait aussi très bien que dans le sport d'aujourd'hui, un potentiel ne fait pas forcément un champion. Et encore plus.
À 5 ans,
alors ça, c'est hallucinant. Et en plus, Marion, là où je te rejoins pas, c'est que tu le dis toi-même, même en ayant tout ça, t'es pas forcément gagné un grand
non,
set.
Non, mais tu dois y croire. Non, mais tu dois y croire. Je rejoins Mats, si tu veux, c'est que pendant très longtemps, on s'est dit en France qu'entre guillemets, c'était pas fait pour nous. Ok, que c'était les autres qui allaient gagner, que les autres étaient plus forts.
Pas avec les quatre mousquetaires. Non, mais souviens comme on en a fait des tonnes.
Non, mais si, mais les joueurs. Mais écoute, je commente avec Joe chaque année à Roland Garros en discutant off aujourd'hui quand on a arrêté nos carrières et qu'il y a beaucoup d'années.
Mais prenez la pression, Joe.
Mais Joe, il a cru en ses capacités, mais à un moment donné, d'avoir Federer, Djokovic, Nadal qui systématiquement bloquaient, c'était compliqué,
là,
ok? Et donc, il se répétait, comme il entendait souvent que, ben, lui, il était en dessous, que ça serait très dur, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, ben, ça sera finalement que pour les autres et pas pour moi. Il n'en aura pas le moins que Cheech a été capable de gagner un tournoi du Grand Chelem et que Stan Wawrinka a été capable de gagner un tournoi du Grand Chelem. Je m'en dimerais sur une catégorie un petit peu différente. Pour moi, Arthur Fils a la capacité de gagner un tournoi du Grand Chelem et je veux vraiment insister là-dessus.
Tu crois pas qu'il puisse avoir le même complexe par rapport à Sinner et Alcaraz.
Mais justement, il ne faut pas qu'il ait ce complexe.
Ouais, ouais.
Et en fait, il ne faut pas qu'il ait en continuant à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire bosser, garder la tête basse, pas, entre guillemets, écouter là ce qu'on fait, les débats qu'on se dit en disant
ça,
ah bah tiens,
mais ça, c'est
mort. Et continuer.
Il va s'enflammer tout seul aussi, quand même, Arthur.
Non.
Je suis là pour être numéro un mondial.
Il croit en ses capacités. Oui, mais il croit en ses capacités, mais heureusement que tu crois en tes capacités. Si t'es pas capable de sortir en disant que tu vas être numéro un mondial, ça sert à rien.
Mais comment tu gagnes de la constance?
C'est français, on n'a pas l'habitude de ça.
Actuellement, c'est la constance. Quand tu vois jouer, tu vois qu'il peut faire des coups énormes, mais tu as l'impression que
La construction d'un joueur de tennis professionnel, du jeune tennis professionnel, avec une construction athlétique qui soit en, qui te donne la possibilité d'aller gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est 10 ans. Ok.
Ah, bah, mais il y en a qui
c'est 10 ans. Il a un an de moins qu'Alcaraz.
Il a 20 ans.
Il n'a pas mis 10 ans.
Même année qu'Alcaraz.
Alcaraz a commencé à 8 ans pour une construction athlétique et arrive à 18. Donc tout dépend à quand tu commences. Nous, en France, on a des systèmes de préparation physique où on pousse un peu plus loin, on n'attend pas aussi, on fait pas la musculation aussitôt, etc., etc. Mais,
partout pareil. En France, on a toujours le temps, attention de pas trop en faire.
Oui, mais je rejoins Matt sur les 4-5 ans parce que pour moi, ça sera le délai nécessaire pour lui, pour avoir la construction
max
physique.
Au minimum.
Non, je rejoins Mats Wilander.
Le délai max.
Le délai qu'il lui faudra. Je pense pas qu'il soit
Je voudrais juste vous donner une stat parce que j'ai regardé les stats des Français les plus précoces. 3 titres sur le circuit ATP. Le numéro 1, c'est Noah qui a réussi 3 titres comme donc Arthur Fils à 18 ans et 300 jours. Gasquet à 20 ans et 28 jours. Et donc Arthur Fils, qui est donc le troisième dans la hiérarchie, à 20 ans et 101 jours. Christophe, toi qui évidemment a fait beaucoup d'émissions sur le Tour de France où on se demandait quand on va avoir le prochain au niveau du tennis masculin, évidemment le nouveau Yannick Noah, ce genre de déclaration, ça te fait peur ou pas?
Oui, parce que après c'est ce qui nous nourrit aussi, c'est-à-dire que ça fait 30 ans 40 ans qu'on attend de voir des Français remporter le Tour de France, gagner Roland Garros ou être champion du monde de Formule 1. Les champions des années 80, on les a pas trouvés, mais on les espère chaque année en vélo. Là on est en train de rêver, il y a un gamin qui a été champion du monde du contre-la-montre il y a quelques jours. On pensait même qu'il ferait le doublé. Et on se dit, ça y est, c'est peut-être lui. On a enfin trouvé le Messi, celui qui va nous amener à une victoire dans le Tour de France.
Mais est-ce qu'on leur brûle pas les ailes, justement, à chaque fois en disant, oui, c'est le futur numéro un, c'est le futur, celui qui va gagner?
Je sais pas si c'est nous qui leur brûlons les ailes ou eux qui se les brûlent pas, ou alors si finalement on mise un peu trop sur des garçons qui n'ont peut-être pas la capacité à être au sommet. J'en sais rien. La faute de qui c'est pour ne pas que ça se matérialise finalement enfin une victoire. Mais il n'empêche que ça fait des années qu'on attend que nos champions français soient vraiment au niveau.
Et le problème, c'est d'attendre.
En sport individuel, je veux dire.
Moi, ce qui me pose souci, alors c'est une déclaration d'un immense champion qui est Mats Wilander sur un joueur dans lequel il croit et il parle de Roland Garros parce que c'est le tournoi chez nous qui nous font vibrer. Mais si Arthur Fils gagne un tournoi du Grand Chelem, ce sera très bien, même si c'est pas Roland Garros. Déjà, parlons de ça parce que un grand tour pour revenir à Bernard Hinault, déjà, attendons. On veut qu'un Français gagne un grand tour. Déjà, ce serait pas mal, non?
Regarde, Zverev et Tsitsipas, qui ont gagné des Master 1000, qui ont gagné le Masters de fin d'année, qui sont vraiment des tournois à référence, juste derrière le tournoi du Grand Chelem, n'ont pour l'instant jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Et là, on parle de joueurs qui sont établis dans le top 10 depuis extrêmement longtemps, qui ont des références qui sont énormes, qui ont fait des finales de Grand Chelem, et qui n'ont toujours pas de titre.
On aimerait bien que ça se passe bien pour Fils, évidemment. On le souhaite tous, on a envie.
Exactement.
Mais c'est une parfaite, ce que tu viens de me dire. Ça met exactement sur la rampe de ce que je voulais te conclure, c'est que ne négligeons pas et ne pensons pas que l'on est seul en France, en fait. Parce que dès qu'on a un champion, un jeune, on parle de, Christophe parlait de Paul Sexas, ça y est, ça va être lui, et puis c'est au-dessus des autres et dans la meilleure course du monde. Mais les autres, ils bossent aussi, hein. Il y a des jeunes dans d'autres générations, dans bien d'autres sûr. Pays qui vont arriver et on néglige. Et là, tu parles de ces joueurs qui ont gagné des matchs. Mais gagnons ça avant. Parce que ça attise un peu le feu chez les autres aussi. C'est-à-dire que on va tout de suite aller, on va gagner le tour, on va gagner Roland Garros, oui, mais entre temps, faut gagner d'autres tournois. Ceux qui gagnent d'autres tournois sont déjà plus forts que toi, mec. Balais cela. Avançons comme ça, pas à pas. Alors, on peut pas lui en vouloir parce que c'est pas lui qui a déclaré ça.
Oui, bien sûr.
Mais faut pas que lui, fasse abstraction de tout ça. Quand on est, moi j'ai beaucoup de mal en France, on a le temps. Avec les jeunes, on a le temps, on prend le temps. On a le temps de quoi en fait ? Peut-être que ta maturité sportive et athlétique, elle va arriver dans 2-3 ans. Exploite-la maintenant.
Je suis d'accord
parce qu'une carrière dans le sport,
il y a d'autres joueurs qui vont
arriver derrière. Et, oui.
Tu sais pas
et
si
une carrière dans le sport, tu sais jamais à quel moment, et n'importe quel scientifique pourra m'appeler pour me dire tu dis des conneries, dès lors que tu commences à être très bien, le facteur psycho-physique est tellement important d'être bien en sûr. Face pour performer que si l'un dépasse l'autre, tu vas être plus fort physiquement mais moins bon dans ta tête. Donc profitons du moment où quand ça va bien, faut gagner des matchs, faut gagner des tournois, faut gagner des courses. Et ça, de faire des plans sur 3 à 5 ans dans le sport, aujourd'hui, ça me semble complètement
OK, utopique. C'est ce qui te fait peur, c'est le plan de 2028-2029 quoi, c'est de fixer
on va gagner dans.
OK.
En fait, ce qui est très compliqué dans notre du Grand Chelem, c'est que pour faire très simple, il faut gagner 7 matchs consécutifs en 2 semaines. Vous n'avez pas le droit de vous rater sur un match.
Ah mais non, mais c'est clair.
Et surtout pas sur la fin d'un tournoi.
C'est l'exercice le plus compliqué dans le tennis.
Exactement. Et quand je reprends l'exemple de Zverev, qui est un joueur qui est arrivé extrêmement tôt, qui a tout gagné, qui a battu les plus forts, bah ça fait deux fois qu'il mène en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Contre Alcaraz à Roland Garros, il mène 2-7-1.
Il faut être capable de gagner.
Contre Thiem en finale du US Open, il a 2 points de gagner le match et il ne le gagne pas. Mmh. Et on ne sait pas s'il y a un jour il finira par gagner un tournoi du Grand Chelem. On lui souhaite, mais on ne sait pas.
Bravo Arthur Fils pour cette semaine en tout cas et cette troisième victoire en carrière. Et évidemment, on suivra l'ascension.
Gagnons des tournois.
Et il a battu un autre français en finale.
Exactement. Hugo Humbert. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Qui a gagné, Christophe, Fred, Marion ou Jérôme? La réponse dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi, vous le savez. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Vous êtes également nombreux à nous écouter en podcast. C'était très chaud hein, dans le studio RMC depuis ce matin. On a parlé de Kylian Mbappé qui joue avec le Real, qui n'est pas en équipe de France. On a parlé d'Arthur Fils. Est-ce que c'est le nouveau Yannick Noah? C'était Mats Wilander qui le disait. On a parlé de l'Olympique de Marseille. Il y a eu un zapping aussi sur le cadre de vie, le nouveau cadre de vie du 15 de France. Bref, beaucoup de sujets développés. N'hésitez pas et composez le 32-16 et à nous écouter en podcast pour agir et réagir à cette émission. À partir de 11h, restez bien avec nous. On va vous parler de vélo. Ça tombe bien, nous avons deux experts. Fred Weiss et Marion Bartoli. Ah non, c'est Christophe Cessieux et Jérôme Pino.
Sur
Pogacar. Il a encore gagné hier. Est-ce qu'il est en train de tuer l'intérêt des courses? Vous n'êtes pas d'accord sur cette question. On ouvre le débat donc à partir de 11h. Mais tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ont été faites ce matin par les GG. Ces propositions de débat, vous avez pu voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. Alors, à la dernière place, malheureusement, c'était le destin de Jonathan Jeanne. Joueur qui a failli jouer en NBA, un destin à la Wemby et finalement qui s'est arrêté précocement, 12% malheureusement
c'est
pour cette
payé,
histoire.
C'est pas payé, mais félicitations à lui en tous les
très
cas.
Très belle histoire en tout cas. Oui. Tu as bien raison, il joue actuellement en Pro B. 12% pour toi, dernier. Le retour des oreillettes, c'est ce que tu proposes après la mort de Muriel Fleurer. C'était ton débat extrêmement sérieux. 19% pour toi, mon cher Jérôme Pinault. Deuxième, l'affaire Nargissi, qui est l'un des plus grands scandales. Tu voulais de nouveau nous en parler avec certains cadres de l'équipe de France qui se renvoient la balle. 33% pour toi. Victoire de Christophe Cessieux.
Mais tu
faisais longtemps que
tu
n'avais pas gagné, non?
Je sais pas. Bon, de toute façon, moi, j'ai compris. Pour gagner, faut.
Tu mets Mbappé, c'est bon.
Le mec fait un débat pour arrêter de parler Mbappé.
Et tu vas parler Mbappé.
Donc, on va reparler Mbappé après.
Bien.
Mbappé,
les médias.
Il va encore faire des cheveux blancs.
Too much. À toi de jouer, Christophe.
Bah, c'est vrai que franchement, je commence à désespérer, mais en même temps, je mets de l'essence dans mon moteur. J'avais pourtant espoir, lorsque Mbappé a signé au Real à la fin de la saison dernière, qu'on allait enfin nous foutre la paix avec Mbappé, que nous n'aurions plus, semaine après semaine, besoin de détailler tous ces faits exégèse, d'analyser, de décrypter une petite phrase par-ci, une moue dubitative par-là, un pénalty raté ou une absence qui interroge en sélection. J'avais espoir de pouvoir disserter sur d'autres champions, apprendre à les connaître et décrypter. Mes espoirs se sont vite envolés. Alors évidemment, je connais le système, hein. J'y participe depuis de nombreuses années. À la différence d'un journal, nous on ne vend pas du papier, on vend des sujets dans le but d'intéresser nos éditeurs et les pousser à continuer à nous écouter. Et pour attirer le chaland, passionner nos éditeurs et faire gonfler les audiences des émissions, il faut leur vendre de la star. Et la star, c'est bankable. Et pas seulement dans le showbiz, dans le sportbiz, ça fonctionne très bien aussi. Notre société a besoin d'icônes, d'idoles qui peuvent prendre la forme d'une actrice de cinéma, d'un mannequin ou d'un sportif de haut niveau. Et au sommet de la chaîne de ces icônes en France trône donc Kylian Mbappé, l'empereur du bankable, king des influenceurs ou encore parfois magicien du carré vert. C'est vrai que quand on n'a pas de quand on réfléchit avec Jean-Christophe et avec Max à fabriquer une émission, il faut quasiment qu'on ait un sujet Mbappé par semaine. D'ailleurs, j'ai fait le décompte depuis la rentrée, donc 10 émissions, et ben 6 d'entre elles ont eu un sujet Mbappé au milieu. Ça peut partir par c'est du Barcola peut-il faire oublier Mbappé, Mbappé disant ce que disent les gens, le cadet de mes soucis, les 55 millions de la Discord, cette affaire entache-t-elle la réputation de Mbappé. Alors moi je trouve ça très bien parce qu'on a toujours évidemment tous un avis sur ce que fait Mbappé, mais je me demande si là on va pas trop loin. Et je voulais justement prendre un témoin, nos auditeurs ce matin sur Twitter, sur le comment ça s'appelle
le
direct studio ou par mail, savoir si vous avez besoin vous aussi de votre dose de Mbappé quotidienne ou hebdomadaire. Et je voudrais aussi, et je sais pas si ce que t'en penses j'y sais, mais proposer aussi une fois dans l'année, proposer de faire l'émission avec nos auditeurs, avec nos tweetos, et qu'ils nous proposent des débats, qu'on les mette au vote, et les débats qui auraient obtenu le plus de votes, et bien qu'ils soient mis à l'antenne et qu'on en discute, qu'on en débatte ensemble.
Un peu comme
ensemble.
Les GG contre-attaque. Et tu vois qu'Mbappé arrive en tête.
Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais les 4 sujets qui ont été proposés, eh bien, mériteraient aussi peut-être de faire l'objet d'un vrai débat de plus de 30 secondes dans l'émission. Et pas toujours les mêmes choses. Moi, j'en ai ras-le-bol de Mbappé. Je vous le dis, j'en ai marre. Je trouve qu'on est on déborde. Ça déborde. C'est trop régulier, trop. Et évidemment, tout le monde nous dit ah ben non, il y a Mbappé a dit ça, il faut faire un débat. Et ben voilà. Donc je voilà ce que je propose. Je voudrais avoir votre avis déjà là-dessus et savoir ce que nos éditeurs également et nos tweetos en pensent. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de Mbappé ?
On était sur la clé de la soixantaine ou pas du tout ?
Non, c'est notre rubrique.
C'est la clé de la cinquantaine, là. je la suis rajeuni de 10 ans.
On l'a vu aujourd'hui, hein. On a fait un sondage et le premier truc qui passe, c'est Mbappé. Donc, on peut considérer, nous, qu'une partie de la population trouve qu'on en parle beaucoup, sauf que la majorité, encore une fois, a parlé et a décrété que Mbappé était un sujet intéressant. Donc, heureusement ou malheureusement, le sujet n'est pas là. Ben Mbappé reviendra parce qu'il intéresse tout le monde en fait.
Moi hier, en rentrant de mon dîner hier, j'ai pris un BTC et
ça a à voir avec notre discussion.
Ouais, exactement. On discute. La première discussion, vous aimez le sport, oui. Oh Mbappé, on est qui ? Ça revient. Les gens ne parlent que de ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce que fait Kylian Mbappé chaque jour, chaque minute, ce qu'il dit, pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait. C'est comme ça, cette passion-là pour ce type-là, moi, me dépasse, clairement. Je suis absolument
moi
pas
aussi,
fan.
C'est pour ça que je voulais vous en parler.
Quelque part, ça m'intéresse pas. Alors, son comportement de ce qu'il a aujourd'hui, pour le coup, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un vrai sujet. Le capitaine de l'équipe de France qui vient pas alors qu'il joue en club, on peut en discuter et ça se discute. Il y a plein de choses à côté dont moi, je me contrefiche. Par contre, ça fait parler, ça fait vendre, ça fait échanger les gens. Ça, c'est une certitude. Ce sujet-là, qu'il soit footballistique au plus large, Mbappé particulièrement, fait parler. C'est le sujet qui fait le plus parler dans les clubs de foot, le lundi à la machine à café, partout où tu vas. Moi, je vends des vélos. Si tu parles de football, les gens me parlent d'Mbappé. C'est les gamins du club de foot.
Ils te parlent un peu de cyclisme quand même ?
Peu. Ils savent même pas que je fais du vélo, les gens.
Ils savent pas qu'ils parlent à une star.
Évident que c'est le sujet qui fait le plus vendre.
Évidemment.
Bien évidemment.
Les gamins du club de foot, de tous les clubs de foot, ils mettent un but à l'entraînement.
Ils font la célébration d'Mbappé.
Il est entré dans les familles françaises.
Ça, c'est sûr.
Et donc, de parler de ça, si tu proposes d'en parler encore plus, alors là, voilà, c'est. c'est le sujet de conversation des Français, enfin, qu'ils soient passionnés de football ou pas d'ailleurs, parce que même certains qui ne connaissent rien au foot connaissent.
C'est la valeur refuge, Mbappé. Quand tu connais rien au foot, tu dis Mbappé. Et là, tu passes pour un mec qui mais concrètement, c'est ça.
Ce qui est assez dingue, c'est quand on va un petit peu dans les écoles, et évidemment avec des enfants en bas âge, j'ai l'occasion d'y aller pas mal. Et en fait, il y a, par exemple, dans les classes pour les CE1, on demande aux enfants de dire et de dessiner ce qu'ils ont envie d'être plus tard et le métier qu'ils ont envie de faire plus tard. Et moi, je me suis amusé à regarder les il y a à peu près une vingtaine d'enfants dans la classe de CE1 et je regarde et tu sais où sont les garçons?
Tous les garçons
ont
Mbappé.
Ont mis footballeur et ils ont dessiné Mbappé. Tous les garçons. Mais c'est-à-dire que les filles, c'était maîtresse, il y avait vétérinaire, il y avait médecin. Tous les garçons,
Mbappé.
La foot, et on a l'impression que c'est Mbappé, avec le maillot de l'équipe de France. C'est dingue.
C'est évident.
Ouais, c'est l'image qui dégage.
C'est une anecdote intéressante.
Moi, j'en ai déjà parlé, j'ai mon filleul qui fait du karting. Il est monté dans un kart à l'âge de 5 ans. Il est aujourd'hui obnubilé par Max Verstappen. Il veut faire quoi? C'est Max Verstappen. Tous les mecs, c'est Max Verstappen. C'est
Lewis Hamilton, quand même, aussi un peu.
Non, pas du tout.
Lewis Hamilton, surtout.
On se retrouve dans quelques instants pour la seconde
fois sur les circuits de karting. Alors, pour le coup, on est peut-être spéciaux en Bretagne. On l'est. Je le sais, c'est Verstappen qui ressort.
On va parler de Tadej Pogacar. Est-ce qu'il est en train de tuer l'intérêt des courses? Il a encore gagné hier. Bah oui, bah c'est le plus fort. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.